Good Morning Business, le grand entretien.
Le grand entretien ce matin, c'est Jean-Louis Thériault qui est avec moi, député LR de Seine-et-Marne, membre de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées. Merci beaucoup d'être dans la matinale de l'économie. Je veux vous demander déjà ce que vous pensez du fait que le conflit au Moyen-Orient reprend, que la trêve n'a pas duré du tout. Quelles conséquences sur notre économie très, très directement? Quel secteur ça met le plus à mal, le plus en danger chez nous?
Les conséquences sont évidemment très graves. Tous les secteurs qui dépendent de l'approvisionnement en hydrocarbures, que ce soit les transports, les compagnies aériennes, ça on l'a en tête. Évidemment, les particuliers qui en ont besoin pour aller travailler, et puis on l'oublie trop, les agriculteurs, où l'achat d'engrais, dont une partie dépend de la méthanisation, prend des hausses catastrophiques. Donc c'est l'ensemble de l'économie qui s'enrhume, et on n'en voit pas la fin.
L'économie civile, mais bien sûr aussi, ce qu'on regarde, c'est l'économie militaire. Le Sénat et l'Assemblée ont validé l'actualisation de la loi de programmation militaire. Elle prévoit que l'État consacre 436 milliards d'euros au budget des armées d'ici 2030. On est dans un contexte d'économie budgétaire. La défense est prioritaire malgré tout. Que va permettre concrètement ce budget ?
Ce budget va permettre davantage de cohérence dans les armées. En clair, nous avions des bateaux qui partaient sans avoir tous leurs missiles parce que tout simplement, on n'avait pas assez de stock de missiles. Donc, ce que cette loi va permettre, c'est d'avoir des munitions, une adaptation au nouveau contexte du champ de bataille, c'est-à-dire la dronisation, la robotisation, un taux d'entraînement meilleur. Mais ça n'est pas une loi de format. Et quand on voit les menaces qui augmentent partout, je pense au flanc est de l'Europe. Il y a une vraie inquiétude aujourd'hui d'avoir, après les élections en Russie en 2027, une mobilisation générale ou une très large mobilisation de forces russes. Cela peut être dangereux pour l'Ukraine, voire dangereux en cas d'escalade horizontale pour d'autres pays européens. Donc évidemment, menace là. Menace, vous avez évoqué le Golfe. Ça veut dire que la liberté du commerce maritime, la liberté des mers devient une priorité. Là, notre format n'est évidemment pas suffisant avec 15 navires de surface. Donc 36 milliards, c'était nécessaire, c'était le minimum, mais on n'aura pas le choix d'y revenir en 2027 et j'espère bien que les candidats à la présidentielle feront de la défense un des axes majeurs de leur campagne.
Les Français, quand je dis les Français, c'est dans leur ensemble, c'est-à-dire les ménages, ce sont les entreprises aussi, sont-ils assez conscients de la menace et qui est à nos portes et des moyens qu'il faut y mettre? Est-ce que chacun devrait participer d'une façon ou d'une autre à cet effort-là, à concentrer des investissements là-dedans?
On est à l'heure des choix, et si on ne les fait pas, ça sera le temps des conséquences et de l'irréparable. Pays qui se sentent le plus menacés physiquement, c'est-à-dire ceux du flanc Est, je pense aux Polonais, aux Baltes, eux en sont très conscients et sont à 4-4,5% de leur richesse nationale consacrée à la défense. Nous, péniblement, avec cette loi de programmation militaire, on serait à 2,5%. Je veux rappeler que pendant toute la guerre froide, et ça n'a pas empêché les 30 glorieuses, nous étions à 3,5. En clair, la marche est encore haute.
Et les entreprises doivent y mettre leur part.
Les entreprises, non seulement les entreprises, mais surtout le monde de la finance, les banquiers, l'investissement. Vous savez, la première des armées aujourd'hui, c'est l'industrie, c'est l'entreprise, c'est la technologie. Pour que les entreprises y mettent leur part, et le président de la République l'a dit à Brienne, c'est améliorer leur capacité de production, prendre des risques à l'export, mais c'est aussi le monde de la finance et de l'investissement qui doit financer les entreprises de défense ou les entreprises duales, et nous avons beaucoup de chance. C'est que les technologies qui vont faire la différence demain dans la défense sont l'intelligence artificielle et sont le quantique, qui sont des industries duales par nature et qui sont les nouveaux game changers stratégiques.
Puisque vous me lancez sur le sujet, effectivement, on parlait tout à l'heure des pépites françaises qui sont presque menacées, celles du quantique, parce que voilà, elles sont menacées, on n'a pas assez d'investissements, on les a mises, on a permis leur naissance, mais aujourd'hui, il faut des fonds, elles sont au moment de leur développement, on a un gros risque de les perdre, notamment au profit des Américains. Qu'est-ce qu'on fait pour Pascal, pour toutes ces entreprises-là ?
Le principal sujet en France, c'est d'être capable de financer le passage à l'échelle. On est assez bon sur les start-up ou les levées de première série, ensuite, on n'a pas de fonds suffisamment importants et suffisamment patients. Alors, il y a une réponse institutionnelle un peu longue qui serait de faire un marché européen des capitaux, et puis il y a l'éléphant au milieu de la pièce dont il faut enfin s'emparer. La seule manière d'avoir une épargne patiente et stratégique, c'est d'avoir des fonds de capitalisation retraite. Donc, on n'échappera pas à avoir une épargne obligatoire par capitalisation d'un certain niveau. Ça ne pourra pas se faire d'un seul coup. Mais c'est une double réponse. Réponse au défi démographique, parce qu'aujourd'hui, les Français doivent être conscients qu'ils ne payent pas pour leur propre retraite, mais bien pour la retraite de ceux qui sont retraités aujourd'hui, vu qu'on fait de moins en moins d'enfants. La réalité, c'est que de tout, et qu'on travaille plutôt moins que nos voisins européens, la réalité, c'est qu'on va vers une falaise. Et puis, c'est surtout un combat pour l'industrie, pour l'investissement. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on entend certains partis comme LFI passer leur temps à cracher sur les super profits de Total, qui aujourd'hui bénéficient des super profits de Total, ce sont les retraités américains avec les fonds de pension américains. Eh bien, moi, ce que je veux, c'est que ce soit le retraité français, le salarié français qui profite des profits de nos entreprises. Et de toute façon, c'est un impératif stratégique. L'IA aujourd'hui, c'est l'affaire Spoutnik qu'on avait eue en 57 avec l'Union soviétique. Quand vous voyez Anthropic qui reçoit l'ordre du gouvernement américain de ne pas communiquer ses modèles IA les plus récents, c'est bel et bien une dépendance technologique. Les fonds de pension, l'investissement, c'est éviter que demain, nous ne soyons une colonie technologique américaine ou chinoise.
Vous allez rendre demain au gouvernement votre rapport sur la sécurité économique. Alors, vous l'avez réalisé en collaboration avec Christophe Plassard et Charles Rodwell. Le but, c'était de s'inspirer de ce qui se fait bien chez nos partenaires en matière de politique et de sécurité économique. Comment vous avez procédé? Et dites-nous, parce qu'il nous reste peu de temps, quel point, finalement, vous avez constaté?
En quelques mots, je ne vais pas spoiler ce qui sera remis demain, mais on a comparé, effectivement, on a fait un benchmark de tout ce qui se faisait en Europe, en Chine et aux États-Unis. Oui. On constate qu'en Europe, on est parmi les pays les plus vigilants. On a quelques trous dans la raquette, mais franchement, ça fonctionne. En revanche, la sécurité économique, ça n'est pas que le contrôle des investissements étrangers, c'est la lutte contre l'espionnage industriel. Et puis, c'est aussi, et ça rejoint notre conversation précédente, avoir des financements. Pourquoi on a des entreprises qui se vendent à l'étranger? C'est tout simplement qu'on n'a pas les fonds d'investissement. Tout se tient et c'est vraiment la bataille de 2027. Avant de se demander à quel âge on part en retraite, la première question à se poser, ça va être comment on fait pour être en pointe dans les technologies de demain qui feront la différence entre les grandes puissances et les autres.
Il nous reste très peu de temps, mais on est en année présidentielle. Considérez-vous le risque d'ingérence étrangère comme inquiétant? Est-ce qu'on a des moyens aussi de l'éviter? On voit que l'IA, justement, prend beaucoup d'ampleur dans les élections. Il va y avoir des élections pas mal dans le monde dans les prochains mois. Qu'en pensez-vous, vous?
Le risque d'ingérence existe, ça n'est pas que des risques, c'est avéré. Vous voyez, dès que vous arrivez sur des sujets tenant à la Russie, par exemple, moi je suis frappé sur Twitter, vous avez une quantité d'intervenants qui sont visiblement des chatbots qui s'enflamment. Donc oui, l'ingérence est là. On a, je crois, en France, un système assez robuste, à la fois avec Viginum et avec France Response, qui est plus agressif, en tout cas, qui défend la position française. On doit trouver l'équilibre entre la liberté d'expression et la protection des intérêts français. Moi, je fais simplement une énorme différence entre la désinformation intérieure ou les fake news intérieures qui participent de la liberté d'expression et puis ce qui vient de l'étranger qui doit être détecté, pisté et dénoncé. Le gouvernement français vient de prendre une position publique en citant quelques ingérences russes. On doit continuer dans ce sens. Tout ce qui vient de l'étranger doit être traqué.
Merci beaucoup Jean-Louis Thieriot d'être venu ce matin. Député LR de Seine-et-Marne et membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Merci d'être venu dans la matinale de l'économie.